Chers auditeurs, le conflit actuel en Ukraine est le plus impactant pour nous, Européens, car il a détruit les bonnes relations, surtout commerciales, avec la Fédération de Russie. Ce conflit amorce aussi la fin du règne occidental absolu sur le reste du monde et montre les limites d'une fuite en avant qui risque, dans le cas présent, de se terminer en désastre militaire, politique et économique. Les médias donnent rarement la parole à ceux qui expliquent une autre réalité que celle exprimée par des médias dominants répétant la version voulue par l'OTAN. Le conflit en Ukraine est la bataille finale d'un impérialisme arrogant prêt à mettre l'Europe à feu et à sang pour nuire à la Russie. Le principal rival historique d'une élite européenne encore au pouvoir est directement issu de familles qui, à l'époque, ont propulsé le Troisième Reich, richement représenté parmi les membres fondateurs d'institutions comme l'OTAN, l'ONU, le WEF et même l'Union européenne. La peste brune porte aujourd'hui comme hier des costards et des cravates et elle ne se limite pas à quelques néo-nazis tatoués. Pour donner la parole à une de ces voix trop peu entendues, nous avons le plaisir de vous proposer un entretien réalisé en mai par nos collègues de Swissbox Conversation avec Jacques Beau, ancien colonel d'état-major général suisse, ex-membre du renseignement stratégique spécialiste des pays de l'Est. Un contenu très riche de passer 3 heures qui valent le détour et que nous avons découpé pour vous en 6 épisodes d'une trentaine de minutes chacun, plus pratique à écouter. Vous allez écouter le 3e épisode de cette série. Retrouvez tous les épisodes en cherchant le numéro 16202 sur le site radiolibre.ch. Bonne écoute.
Vous écoutez Radio Libre.
Parce que nous, on regarde combien il y avait d'hommes grenouilles autour des trucs, mais bon. Ce que ça veut vraiment dire, on peut tirer des quantités de choses, des quantités d'enseignements de son article, mais un des éléments pour la discussion qu'on a maintenant, l'élément principal, c'est que les pays de l'OTAN se tirent les uns sur les autres. C'est ça que ça veut dire. Et ça, c'est évidemment impossible.
Parce qu'on dit, l'OTAN n'a jamais été aussi unie. Peut-être même Macron a dit que s'il n'y avait pas eu cette guerre en Ukraine, l'OTAN n'aurait pas pu continuer, n'aurait pas pu survivre.
Bon, ça,
il avait dit même avant.
Lui, il raconte n'importe quoi. Non, l'OTAN serait. Il n'y a aucune raison pour que l'OTAN se dissolve. Non, l'OTAN n'est pas ni plus, enfin, n'était pas plus. Ok. En revanche, l'OTAN, comme d'ailleurs l'Union européenne, a mis en exergue les tensions qu'il y avait à l'intérieur de l'Alliance. Bah déjà avec l'affaire Nord Stream, ça veut déjà dire ça. Mais il y a aussi d'autres, parce qu'on voit qu'il y a certains pays, par exemple, qui ne veulent pas participer, typiquement la Hongrie. Alors c'est un problème qu'on observe également, d'ailleurs, avec l'Union européenne. Mmh. Et la Hongrie ne veut pas s'associer à un certain nombre de mesures qui ont été prises contre la Russie et ne soutiennent pas totalement la politique à l'égard de l'Ukraine, n'est-ce pas? Et pourquoi ça? C'est pas parce que, alors évidemment, vous avez les complotistes de la radio-télévision suisse ou autres, ils vont vous dire, ouais, mais évidemment, les dictateurs s'entendent bien entre eux. Donc, ça, c'est du raisonnement. Du raisonnement de bout de chandelle, ça vaut rien. La raison pour laquelle Orban est pas sur la même ligne que l'Union européenne pour certaines choses et pour l'OTAN d'autre part concernant l'Ukraine, c'est que les minorités hongroises ont subi le même sort que les minorités russes. Parce que quand on a parlé tout à l'heure des langues, qu'on dit que l'ukrainien reste la seule langue, ça touche évidemment toutes les autres minorités linguistiques, la plus importante étant la russophone, mais les magyarophones font aussi partie. Et depuis plusieurs mois maintenant, il y avait déjà depuis plusieurs années, je devrais dire, parce que entre 2014 et 2022, la Hongrie s'est plainte au Conseil de l'Europe à plusieurs reprises des exactions commises contre la minorité magyarophone en Ukraine. Et puis, depuis le début de l'opération, on a exactement le même phénomène. C'est même encore pire, parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ceux qui soutiennent la guerre en Ukraine, les Ukrainiens qui soutiennent la guerre, c'est pas tous les Ukrainiens. C'est les Ukrainiens de l'Ouest. C'est-à-dire ceux qui sont j'allais dire maintenant ethniquement ukrainien, pour autant que ça veut dire, pour autant que ça veut dire quelque chose. Mais on pourrait dire ça comme ça. C'est, ça, ça vient de l'Ouest. C'est d'ailleurs ceux-là qui, en 2014, ont fait le coup d'État de Maïdan. C'est des gens de Lvov, ou Lviv, comme on dit aujourd'hui. Lvov en russe, Lviv en ukrainien. C'est ceux-là qui ont fait la révolution de Maïdan. C'est ceux-là qui ont fait ces mouvements, les mouvements néo-nazis, Azov, etc., qui continuent à aduler Stepan Bandera, etc., qui était leur libérateur. Mais c'est un libérateur d'extrême droite, fasciné par les nazis pendant la guerre, etc., qui s'est appuyé sur les nazis, qui était compté soviétique. C'est de bonne guerre à l'époque de le faire comme ça. Et ça, ça, là, on est dans l'ouest de l'Ukraine. Et ces gens sont pour la guerre, mais le reste de l'Ukraine n'est pas tellement favorable à ça. Et quand on regarde d'ailleurs, il y a en décembre 2021 et au début février 2022, l'Institut de sociologie de Kiev a fait une enquête sur la volonté de défense des Ukrainiens. Et on s'aperçoit que la volonté de défense, parce qu'on vous dit aujourd'hui, oh, les Ukrainiens, volonté de défense, c'est une volonté de résistance, etc.
Ils s'engagent librement.
On voit alors, librement, on peut discuter encore là-dessus, mais on ne va peut-être pas discuter maintenant là-dessus. Enfin, pas tout de suite. Quand on regarde les chiffres, on s'aperçoit que la volonté de défense, elle est très forte, effectivement, dans l'ouest du pays. Mais dès qu'on va dans l'est et au sud du pays, cette volonté de défense se réduit à presque plus rien du tout. Parce que tout simplement, ce sont des gens qui n'ont pas beaucoup de choses en commun avec les Ukrainiens de l'Ouest, de l'Ukraine occidentale. Mm-hmm. Mais en même temps...
C'est un peu loin de micro.
Oui. Mais en même temps, en Ukraine occidentale, c'est là où il y a les minorités magyares. Et c'est cela, alors aujourd'hui par exemple, les Orban s'est insurgé contre les Ukrainiens parce que apparemment, maintenant que l'armée ukrainienne a été décimée, on peut dire ça comme ça, je rappelle que depuis maintenant la fin 2022, aujourd'hui ils en sont à 10 ou 11 mobilisations déjà.
Ça, on n'entend jamais parler des mobilisations. On voit jamais... juste des vidéos de gens qui se font attraper littéralement.
Voilà. On voit les gens qui se font attraper de force, etc. Tu évoquais tout à l'heure les recrutements forcés. Mm-hmm. C'est effectivement ce qui se passe.
Il y a 11 mobilisations.
À peu près 11 tours de mobilisation. Ce n'est pas exactement parce que c'est très... Mais je crois que 11, ça doit être le bon chiffre maintenant. J'ai lu encore tout récemment, dans la presse ukrainienne, hein, dans la presse ukrainienne, c'est pas la presse russe, c'est la presse ukrainienne, le nombre d'étudiants dans les universités ukrainiennes a augmenté de 82% l'année passée. Et dans certaines universités, le nombre d'étudiants a été multiplié par 12, mm-hmm. Je peux me tromper.
Ce qui sous-entendrait que quand on est étudiant, on peut être exempté de...
Exactement. Quand on est étudiant, on est exempté d'aller se battre, exempté de service militaire. Et donc, tout le monde est allé à commencer à s'enregistrer comme étudiant. Donc, ça veut dire, quand on parle de cette volonté de défense, je crois que les Ukrainiens n'avaient pas envie de faire cette guerre. Ils n'avaient pas envie, les Ukrainiens, d'aller faire la guerre. C'est le gouvernement qui voulait le faire, parce qu'il avait des ambitions... Mais que ce n'était pas les ambitions
du peuple.
Est-ce
que ça peut être différent, réellement? Moi, je n'y crois pas trop. Un peuple qui veut faire la guerre à un autre, pour moi, en général, mais c'est peut-être aussi un peu simpliste, c'est souvent les élites, les autorités, le gouvernement qui a des velléités, qui peuvent exister culturellement, mais jamais jusqu'au point d'aller envoyer les enfants pour s'entretuer, quand même.
Alors,
Me contredire.
De nouveau, on peut naturellement discuter, mais j'irais presque jusqu'à dire que le contre-exemple, c'est presque la Russie. Parce que, à partir de 2014, les exactions qui ont été appliquées ou qu'ont subi les populations du Donbass ont fortement impressionné les populations russes. Parce que ces Russes du Donbass, même tout le sud de l'Ukraine, y compris jusqua Odessa d'ailleurs, qui est ukrainien aujourd'hui, mais il y a eu ce fameux massacre de la maison des syndicats d'Odessa qui a énormément choqué la population russe. Énormément. Il y a eu des mêmes massacres à Mariupol. Ça n'est pas venu dans nos médias parce que les méchants, c'était les Russes et les gentils, c'était les Ukrainiens. Donc, c'est toujours la même chose. Mais eux, les Russes savent. La population russe sait. Parce qu'ils ont de la famille. C'est des cousins. C'est, ils sont mariés avec. Ils ont, etc. Que, d'ailleurs, moi, j'ai rencontré dans les conférences que je fais. Il y a plusieurs Ukrainiens qui sont venus. Moi, j'ai habité Mariupol. J'ai habité comme ça. Et c'est des gens qui ont des liens. C'est deux populations qui étaient extrêmement imbriquées. Extrêmement imbriquées par l'histoire. Et par la proximité linguistique, par nombreuses proximités au pluriel. Et donc, la population russe, c'est elle qui voulait que le gouvernement s'implique dans le Donbass. C'est Poutine qui ne voulait pas. Poutine n'a pas voulu jusqu'en février, quand il s'est résolu à finalement... reconnaître la déclaration d'indépendance des républiques de Donetsk et de Lugansk, mais jusque-là, il s'était toujours opposé à ça. Il avait dit, c'est les accords de Minsk qui doivent prévaloir.
1, 2.
Mmh. Exactement. 1 de septembre 2014 et 2 de février 2015. Et il ne voulait pas faire ça. Il voulait que le problème ukrainien soit résolu en Ukraine. Mais il savait en 2022 que, probablement d'ailleurs, assez curieusement, je pense contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, j'en suis presque à me demander si la Russie n'était pas intervenue en février, je me demande si Poutine n'aurait pas été renversé.
Parce que pour les raisons contraires.
Pour les raisons contraires.
On nous dit en fait.
Exactement. Si c'est exactement l'inverse.
Comme il a attaqué, il va être renversé.
Exactement.
Il va y avoir,
et d'ailleurs, quand on regarde les réactions après l'incident des drones, enfin différents incidents qu'il y a
on
eu.
On reviendra sur différents.
Oui, mais on ne veut pas entrer dans les détails techniques là-dedans. Mais quand on voit par exemple des gens comme Medvedev.
Oui, alors lui.
Qui dirige le Conseil de sécurité.
Il aboie là, pour le coup.
Mais c'est. Bien sûr qu'il aboie, mais il est représentatif d'une partie importante de la population. Mmh. Il ne faut pas oublier ça. On croit toujours que Poutine est un extrémiste. Il est considéré comme un modéré en Russie.
Ouais, ouais. Donc le danger, ce serait que si Poutine était renversé, par exemple, puisque c'est aussi l'objectif. Biden l'a rappelé il y a quelques jours. Hein,
oui, bien sûr.
Il a dit que Biden ne peut pas rester au pouvoir. Si ce n'était pas un fake, hein, évidemment.
Non, mais ça a été dit à plusieurs reprises. Ça a été dit à plusieurs
reprises. Donc le remplacement, ce serait... certainement quelqu'un de plus va-t-en-guerre.
Certainement plus va-t-en-guerre, bien sûr. C'est là où ça devient totalement... C'est pour ça que cette affaire devient totalement irrationnelle, quelque part. Et on est... Il y a beaucoup de gens qui... Et d'ailleurs, quand on voit dans nos médias, etc., on nous parle sans arrêt de Poutine. Puis jamais quelqu'un... On dit qu'il ne devrait pas être au pouvoir. Effectivement, beaucoup de gens ont dit qu'il doit partir, etc. Même Zelensky a adopté une loi qui interdit de négocier avec la Russie.
Ouais, c'est ça.
Donc, Vladimir Poutine est en pouvoir. Donc, ça veut déjà tout dire ce que ça veut dire. Mais jamais personne ne s'est dit, mais qui viendrait ?
Qu'est-ce qui se passerait ?
Qu'est-ce qui se passe après ? C'est le même phénomène avec Bachar el-Assad, d'ailleurs. On dit, il faut le renverser. Mais qui viendrait après ? L'État islamique ? C'est ça les questions qu'il faut se poser. Si on a quelqu'un qui est valable après, mais... Ouais,
c'est... Qui prouve encore le manque de vision et la médiocrité des
exactement. Ça met en évidence la médiocrité de nos diplomates, de nos politiciens. Et
nos diplomates, ça existe encore. Ça, je vois pas de diplomatie.
Non, il y a plus de la diplomatie occidentale est morte. Mais bref, donc il faut comprendre ça. Et je reviens à Orban, Viktor Orban. Donc, s'il est opposé ou s'il fait un petit peu, office de mouton noir dans les troupeaux de l'OTAN et de l'Union européenne, c'est pas tellement parce qu'il a des sympathies pour Vladimir Poutine, c'est parce qu'il a des minorités et sa population lui demande d'intervenir au profit de ces populations, de ces minorités qui sont en Ukraine. Il y a eu des exactions au niveau des écoles. Le magyar a été limité dans les écoles. Je ne sais pas s'il a été interdit. Maintenant, je pourrais me tromper là-dessus. Mais il y a eu en tout cas des difficultés majeures. actuellement que là, on parlait tout à l'heure des recrutements, il y a eu des recrutements forcés, particulièrement chez les Magyars. Et donc, Viktor Orbán s'est insurgé la contre. Il a dit, pourquoi on vient recruter spécialement des Magyars? Nous, ce n'est pas notre conflit. Nous, on n'a rien à voir entre les russophones et les ukrainophones. C'est votre problème. Nous, on est dans notre coin et ne touchez pas nos minorités.
Cher à canon.
Exactement, c'est ça le problème. Et donc... quand on pour revenir à la discussion qu'on avait sur l'unité à l'intérieur de l'Union européenne et l'unité à l'intérieur de l'OTAN, eh bien, on s'aperçoit que aujourd'hui, les gens commencent à penser, d'ailleurs, en termes d'intérêt national, pas simplement en termes de politique étrangère par rapport aux grandes organisations. Et c'est ça qui fait que les gens prennent du recul et commencent à réfléchir, puis se disent, mais vraiment, est-ce que c'est vraiment dans notre intérêt? Quand on paye le gaz trois fois plus cher, etc., etc., parce qu'en dernière analyse, c'est très facile de dire on paye pour l'Ukraine, mais c'est finalement le citoyen lambda qui doit racler les fonds de tiroir à la fin du mois pour pouvoir payer. C'est lui qui paye en réalité. Donc on prend les décisions pour des gens qui n'ont pas nécessairement les moyens d'une politique qui est extrêmement coûteuse, hein, disons-le comme ça. Donc là, il y a quelque chose d'extrêmement pervers dans l'Union européenne. Alors, ça touche évidemment davantage l'Union européenne que l'OTAN, parce que l'OTAN, en réalité, il est pas vraiment, il intervient qu'à la marge dans ce conflit, si on est honnête. C'est les Américains qui décident ce qui se passe, c'est pas l'OTAN. L'OTAN... C'est pour ça que quand on dit que c'est une guerre entre l'OTAN et le... Oui, je sais que même les Russes ont dit qu'on se bat contre l'OTAN, parce qu'effectivement, il y a les armes viennent de l'OTAN. Mais l'OTAN, en tant qu'organisation, est totalement... n'a pas beaucoup à dire dans ce conflit. Stoltenberg, il fait des grands gestes de temps en temps, mais en réalité, il a rien à dire. C'est les Américains qui décident dans l'OTAN. C'est pas lui. Lui, il a strictement rien à dire.
D'ailleurs, il a dit que l'Ukraine allait de toute façon à terme rentrer dans l'OTAN. Et puis sur ce, il y a un tweet d'Orban qui fait « What ?»
Genre,
quoi ?»
Bah, il a rectifié, okay, d'ailleurs. Il a rectifié, d'ailleurs. Stoltenberg a dit qu'il entrerait dans l'OTAN. L'Ukraine entrerait dans l'OTAN après la défaite de la Russie. Après, parce que de nouveau, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Il y a ce fameux article 5 de l'OTAN
qui dit que cette fameuse clause, comme on dit, on peut pas y rentrer.
C'est-à-dire qu'il dit que l'article 5 signifie que quand un des pays membres est attaqué, les autres viennent l'aider.
De toute façon.
Ouais. Donc ça veut dire que c'est l'article de l'entrée en guerre.
C'est ça.
Donc si le pays qui entre dans l'alliance est déjà en guerre,
de facto,
voilà,
une déclaration.
C'est exactement comme si tu contractes une police d'assurance avec un risque de 100%. Bah, jamais aucune compagnie d'assurance t'assurera comme ça. Il faut au moins qu'il y ait une probabilité que ça vienne. Mais si 100%, ce n'est plus une probabilité. Donc, c'est exactement le problème qu'a l'OTAN. Et c'est pour ça que l'Ukraine, tant qu'il y a le conflit avec la Russie, il n'y a aucune chance qu'il entre. Il faut que la Russie soit vaincue, définitivement.
Mais est-ce qu'aux yeux du monde, plus largement, l'OTAN et l'Europe n'est pas en train de perdre pied, de perdre sa crédibilité, notamment avec Nord Stream, on viendra avec d'autres exemples après. Mais Biden, il a dit, on ne laissera pas faire. Et puis, il répondait à des journalistes. Si la Russie attaque, nous ne laisserons pas Nord Stream 2 rentrer en service, comme ça. Et quelqu'un demande, mais comment vous pouvez faire? C'est pas de votre juridiction. Puis il dit, on ne laissera pas faire, faites-nous confiance, ou un truc comme
ça.
Il y a aussi Nuland qui a dit quelque chose exactement de la même
tout
manière. Puis après, donc, il y a le Nord Stream qui explose. Et puis là, clairement, il n'y a personne qui a aucune possibilité d'expliquer et de justifier les arguments avancés, que ce serait la Russie elle-même qui s'auto-flagelle. Mais je veux dire, les gens qui regardent ça quand même, moi, je pense à l'intelligence du monde en général et des gens qui prennent un petit peu soin de regarder ce qui se passe. Là, franchement, l'Europe a l'air de débilos, si je peux dire.
Alors, c'est même pire que ça, parce qu'en réalité, moi, j'ai passé en contact avec des Africains et des gens qui Bon, j'ai aussi une histoire africaine quelque part, donc c'est un peu normal que j'ai des contacts. Mais ces gens qui nous voient de l'extérieur, c'est avec ça. Des yeux extérieurs.
La communauté internationale, mais la vraie, pas celle dont on prétend que c'est juste le centre européen.
Eux, pour eux, tout ce qu'ils voient, c'est cousu de fil blanc. Donc, ils constatent bien qu'on est... Les Européens, là, ont montré, ont fait une preuve de faiblesse absolument incroyable. Déjà dans le fait que, si on y réfléchit bien, depuis le début du conflit, c'est-à-dire, enfin pas depuis le début du conflit, puisque le conflit a commencé, enfin oui, on pourrait dire ça à partir de 2014, mais depuis le début de l'opération russe, on aurait pu s'attendre à ce que la diplomatie européenne se mettent en marche et qu'il y ait quelque part des tractations, qu'on puisse trouver un terrain d'entente. Mais non, il n'y en a pas. Tout simplement, d'ailleurs, pour une bonne et simple raison, c'est que personne n'a envie de faire la paix. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'activité diplomatique. Parce qu'on ne veut pas faire la paix.
Au niveau des gouvernements et des dirigeants. Parce que,
oui, c'est ça. Mmh. Non, pas au niveau du peuple. Mmh. Parce que dans pratiquement tous les pays, alors c'est d'ailleurs très intéressant, j'ai vu récemment un sondage qui a été fait en Lituanie, il a été fait l'année passée en Lituanie, où la plupart des Lituaniens, et pourtant les Lituaniens, alors c'est vraiment...
Oui, et puis les dirigeants, ça allait assez belliqueux.
Extrêmement belliqueux, mais belliqueux au sens même école primaire du terme, hein, n'hésitons pas, c'est vraiment des gamins, littéralement d'ailleurs, mais intellectuellement aussi. Et la population, alors c'est marrant de dire que la majorité de la population lituanienne dit on ne doit pas chercher des noises avec la Russie. C'est notre principal partenaire et ça n'a aucun intérêt d'être en conflit avec eux. Et ça faisait à peu près 50 ou 60% de la population qui disait ça quand même. Et puis, il y avait un bon 30%, maintenant je n'ai plus exactement les chiffres en tête, mais un bon 30% qui disait que la politique, ils avaient le sentiment que la politique lituanienne était dictée par Washington.
Ça fait beaucoup.
Beaucoup. Ça montre que même dans ces pays-là, où les gens sont à l'intérieur, en fait, ils ne sont même pas à l'extérieur, la population, le bon sens, voit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans cette affaire. Et que l'inaction de la diplomatie occidentale est révélatrice du fait qu'en réalité, on avait envie qu'il y ait une guerre. On est tout content que les Ukrainiens la fassent pour nous, parce que c'est ce qui se passe. Ouais. Quand vous avez... Vous pouvez dire, ouais, ils font ça parce que nous, on a peur des Russes. Mais regardez l'Estonie. L'Estonie a donné toute son artillerie, mm-hmm. toute.
Ouais, ouais. Ils se sont démilitarisés.
Ils se sont démilitarisés pour donner à l'Ukraine. Ouais. Donc, ils n'ont pas peur de la Russie. Parce que Sinon, quelqu'un avait peur de la Russie, il dirait en tout cas garder nos armes. Mm. Mais non, c'est pas du tout ce qu'ils ont fait. Ils ont tout donné. Donc, on est exactement dans ce schéma-là. On a finalement, on envoie les Ukrainiens, on leur dit allez vous battre pour nous.
C'est ça. Hein.
Le drame qui se passe aujourd'hui et qui est assez intéressant à observer, c'est que les Ukrainiens, et c'est amusant parce que j'ai été dans une ou deux conférences comme ça, virtuelles, en réseau mondial, avec des gens de Kiev. Avec des gens de Kiev. Qui ont d'ailleurs dit que je disais des choses vraies.
Mais ce n'est pas dangereux pour eux, à Kiev, en ce moment.
Alors ça, je ne sais pas. Ça, c'est... Je peux seulement dire que les gars étaient là, présents, de Kiev, et que les gars ont dit ce que dit M. Beau est juste. Voilà, ça, c'est ce que je peux dire. Mm-hmm. Le reste, qu'est-ce qu'ils prennent des risques, etc. Mais le gars... Ce qui est intéressant, c'est que les gens, aujourd'hui, commencent à s'apercevoir qu'ils ont été utilisés. En allemand, on dirait « missbraucht ».
Quand tu dis les gens, tu parles de qui ?
Je parle des Ukrainiens. Mm-hmm. Les Ukrainiens eux-mêmes s'aperçoivent qu'on les a exploités dans cette affaire.
On peut même être au présent, qu'on les exploite.
Oui, qu'on les exploite. Mm-hmm. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Et je pense qu'à vrai dire, plus on avance dans le temps, plus c'est ça qui apparaît. Parce que plus... Et c'est là où ça devient intéressant d'ailleurs, parce que dans mes livres, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne prends mes sources. Les sources de mes livres, c'est les médias anglo-saxons, principalement. Mm-hmm. Les médias ukrainiens, et les médias de l'opposition russe. C'est la principale source. Il n'y a pas une seule source russe dans mes livres.
Tu m'as d'ailleurs dit que tu étais très discipliné et je t'ai fait part d'une nouvelle de Russian Today, RT, et tu ne savais pas.
Non,
parce que tu ne suis pas ces médias.
Je ne suis pas du tout les médias russes, absolument.
Donc
pas.
Je confirme.
Et par contre, ce qui m'est arrivé de faire, c'est après coup, notamment quand j'ai fait mon dernier bouquin, c'est de reprendre les informations qui avaient été données sur les médias, sur des événements à Bakhmout, etc. Et puis de regarder après coup ce que RT avait dit à cette époque-là, pour voir s'ils avaient raconté des histoires, s'il y a des écarts, etc. Et on s'aperçoit que si je dois... De nouveau, je m'astreins à cette discipline, donc je ne le fais pas, mais si je devais me baser sur les Russes pour faire mes bouquins, je pense que j'arriverais presque au même résultat. Parce qu'ils sont beaucoup plus... Il y a beaucoup moins de propagande à l'intérieur que ce qu'on imagine. Certains événements sont montés en épingle, bien sûr. Il y a des événements qui prennent toujours des proportions
on
énormes.
On parlera de quelques-uns.
Typiquement, l'affaire des drones récemment sur le Kremlin, etc. Ça peut prendre des choses importantes.
Je veux juste rappeler que RT, il est censuré en France. Donc, si tu es en français, sur RT français, tu ne peux pas avoir accès à Russian Today.
Ouais.
En Suisse, ce n'est pas le cas.
Non, ce n'est pas
en
le
Suisse,
cas.
En Suisse, tu peux avoir accès à Russian Today. Donc, qui fait de la censure et qui fait de la propagande. Mais je te laisse continuer.
Mais oui, alors, donc ça, c'est un élément intéressant. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand je reviens sur l'exemple des sources, quand je regarde ce que disent les médias ukrainiens sur le conflit, alors pas tout naturellement, parce que c'est les médias ukrainiens en Ukraine, et l'Ukraine étant ce qu'elle est aujourd'hui, c'est un pays en guerre, et on peut concevoir assez bien qu'ils imposent une certaine discipline de langage pour rester dans les euphémismes. Mais on peut l'admettre. Néanmoins, si on lit bien les médias ukrainiens, on s'aperçoit qu'ils nous racontent bien plus de choses que nos médias. Et que quelquefois, ils nous racontent des situations qui sont beaucoup plus, peut-être pas critiques, mais disons qui montrent une situation beaucoup moins rose en Ukraine que ce que nous présentent des médias francophones comme LCI, BFM TV ou RTS, par exemple, typiquement.
Vous venez d'écouter le troisième épisode de cette série de 6 sur l'Ukraine avec Jacques Beau, réalisé par The Swiss Box Conversation. Retrouvez les autres épisodes en recherchant le numéro 16202 sur le site radiolibre.ch.